Voilà, je vous invite à chercher un premier passage. Nous en lirons plusieurs dans Actes chapitre 11. Actes chapitre 11. Ce matin, nous allons lire plusieurs passages qui vont nous aider à répondre à la question suivante. Peut-être que quelqu'un pourrait vous la poser. Pourquoi tu es chrétien? Imaginons que quelqu'un vous pose cette question. Mais pourquoi tu es chrétien? Quelle pourrait être votre réponse ou vos réponses? En effet, nous ne sommes pas chrétiens parce que nous sommes nés dans un pays chrétien. Nous ne sommes pas chrétiens parce que nos parents sont chrétiens. Nous ne sommes pas chrétiens parce que nous avons été baptisés en tant que bébés. Mais nous avons fait le choix de le devenir alors que nous ne l'étions pas. Pourquoi alors cette décision? Pourquoi ce choix? C'est la question à laquelle je voudrais répondre ce matin. Pourquoi je suis chrétien? Ce n'est pas simplement une raison personnelle, même s'il y a des raisons personnelles propres à chacun de nous. Il y a aussi des raisons que nous partageons tous ensemble, qui nous ont poussés et qui font que nous demeurons dans cette certitude et dans cette décision. Je suis devenu chrétien et je persévère en restant chrétien, et demain je serai encore chrétien, et jusqu'à la fin de ma vie je serai encore chrétien. Si vous n'êtes pas sûr de cela, eh bien il est temps vraiment de chercher la face de Dieu pour qu'il vous donne l'assurance qu'il est avec vous jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde. Mais avant de répondre à la question « Pourquoi je suis chrétien ?», peut-être avons-nous besoin de commencer d'abord par savoir de quoi nous parlons. C'est quoi d'abord un chrétien? Alors vous savez que ce nom, ce n'est pas les chrétiens qui se l'ont donné, mais ce sont les gens qui habitaient une ville de Syrie, Antioche, qui leur ont donné ce nom-là, chrétien. Et ces croyants ont été appelés ainsi par les habitants de la ville d'Antioche parce qu'ils ont vu où ces chrétiens avaient un comportement particulier qui a amené les autres à leur donner ce nom. Alors nous allons lire quelques versets dans Actes chapitre 11. Voilà, si vous n'avez pas votre Bible, le verset va s'afficher. Alors, il faudrait lire à partir du verset 19. Mais les chrétiens qui habitaient encore à Jérusalem ont été dispersés parce qu'on a commencé à les persécuter. Alors, ils ont voyagé dans d'autres villes. Ils sont arrivés à la ville d'Antioche. Et ils ont commencé à parler, en juifs qu'ils étaient, à d'autres juifs de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais certains ont pris courage et ils ont parlé à ceux qui ne l'étaient pas, à ceux qui n'étaient pas juifs. Et ils vont leur annoncer la bonne nouvelle. Et voilà ce qui est dit au verset 21. Or, le Seigneur était avec eux, un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Et ensuite, quand les habitants de Jérusalem entendent que des non-juifs se sont convertis, ils vont envoyer un homme, Barnabas, pour aller rencontrer ces nouvelles personnes. Et Barnabas, quand il arrive, au verset 23, à son arrivée, il constata ce que la grâce de Dieu avait accompli et il en fut rempli de joie. Il encouragea donc tous les croyants à rester fidèles au Seigneur avec une ferme assurance. Et au verset 26, on voit à la fin du verset, c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. Les christianoi, c'est-à-dire ceux qui proclamaient le Christ comme le Seigneur. Dans les versets que je viens de lire, nous voyons qu'un chrétien est d'abord quelqu'un qui a cru et qui s'est converti au Seigneur, comme le dit le verset 21. Se convertir et croire au Seigneur. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que quand Barnabas est venu, il a vu quoi? Ce que la grâce de Dieu a accompli au milieu d'eux. Autrement dit, Cette conversion au Seigneur n'était pas une conversion de nom. Elle avait des conséquences visibles dans la vie de ces gens qui se sont tournés vers le Seigneur. Un chrétien est forcément quelqu'un qui devient différent. Un chrétien est forcément quelqu'un qui vivait d'une certaine manière et il y a eu un renversement de situation dans sa vie et cela devient net, visible, clair aux yeux des autres. Parce que ce sont les autres, les non-convertis, qui vont appeler les disciples des chrétiens. La grâce de Dieu était en action dans leur vie et cela a été visible de la part des autres. Tite, l'épître de Tite, nous pouvons lire que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée et elle nous enseigne à vivre d'une certaine manière en renonçant à la vie ancienne. Et c'est ce que les gens d'Antioche ont vu. Un chrétien est quelqu'un qui vivait d'une certaine manière et il a renoncé à cette vie en se tournant vers le Seigneur et en vivant d'une autre manière. Autrement dit, un chrétien, c'est quelqu'un qui avait pour maître lui-même. Il a renoncé à se diriger lui-même et à être au contrôle de sa vie pour laisser quelqu'un d'autre la prendre en charge, c'est-à-dire en être le maître. Le chrétien, c'est celui qui reconnaît publiquement, comme le dit un passage dans la Bible, le chrétien est celui qui reconnaît publiquement que Jésus est Seigneur. Et il croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Reconnaître publiquement, ça veut dire quelque chose de très important à cette époque-là. Si quelqu'un disait « Jésus est Seigneur », il risquait quoi ? La mort. Parce que d'autres voulaient qu'il dise plutôt le contraire. « César est Seigneur ». Non, le chrétien, c'est celui qui dit de sa bouche, qui ne cache pas dans son cœur, mais qui proclame et qui avoue aux yeux des autres « J'ai un nouveau maître, Jésus, est mon Seigneur ». C'est le Christ qui est mon roi et je me soumets à son autorité. J'obéis à sa volonté. Je ne peux plus obéir à quelqu'un d'autre. C'est à lui seul, à ce sauveur que j'obéis et avec qui je marche. Un chrétien, c'est quelqu'un qui se savait loin de Dieu. Il sait qu'il avait construit un mur qui le séparait du Seigneur. Il était privé de la présence de Dieu. Et il sait que par la mort de Jésus, il a reçu le pardon ou l'effacement de ses péchés, ou autrement dit, il sait que par Jésus-Christ, le mur qu'il avait construit de ses propres mains a été détruit par la mort du Seigneur et qu'ainsi, à nouveau, il peut accéder à la présence et à la communion de Dieu et il vit dans cette communion-là. Et il est très important que nous nous rappelions ces vérités-là. Un chrétien, c'est quelqu'un qui s'est converti. Un chrétien, c'est quelqu'un dont la grâce de Dieu est agissante jour après jour au point que cela se voit aux yeux des autres. Un chrétien, c'est un homme qui s'attache au Seigneur et qui vit dans la fidélité au Seigneur, comme le dit le verset 23. Quand Barnabas est arrivé voir ses disciples, il les a encouragés à rester attachés d'un cœur ferme au Seigneur. Et vous savez que nous avons besoin de la même exhortation. Tellement de choses voudraient ébranler notre cœur, nous détourner du Seigneur, nous détacher de notre Dieu. Mais le chrétien est celui qui reste ferme, d'un cœur ferme, attaché, uni à son Seigneur. Il y aurait beaucoup à dire sur le sens du mot chrétien, mais il faut que je continue. Et j'arrive donc aux raisons pour lesquelles je suis chrétien. Pourquoi je suis chrétien? Mais la première raison, qui vous viendrait peut-être à l'esprit, à vous et à moi, c'est que Jésus est l'unique sauveur. Parce que je suis chrétien et il y a tellement de versets de la Bible qui me viennent à l'esprit immédiatement. Jésus est l'unique sauveur. Et il est aussi le sauveur unique, unique en son genre. Il y a bien des hommes qui se prétendent sauveurs, ils ne sauvent de rien. Jésus est le sauveur unique et l'unique sauveur parce qu'il sauve efficacement. Il y a tellement de versets dans les Écritures qui nous montrent que Jésus est l'unique sauveur. Tout à l'heure, nous avons écouté dans une prière le rappel du verset Jean 14, 6. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous le dire. C'est Jésus qui parle. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est l'exclusivisme chrétien. Autrement dit, à l'exclusion de Jésus, il n'y a pas de moyen d'être sauvé. Est-ce qu'il y a d'autres passages qui vous viennent à l'esprit qui parlent de l'exclusivité de Jésus-Christ? C'est Jean 14, 6. Jean 3, 16. C'est ça ce que tu as dit? Car Dieu a tant aimé le monde. Voilà un verset qui nous rappelle l'amour de Dieu pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, afin que toute personne qui croit en lui, et non pas comme les petits enfants qui disent, afin que King Kong croit en lui. Donc, afin que toute personne qui croit en lui ait la vie éternelle. Il y a un autre verset que je voudrais qu'on lise ensemble dans Acte 4, verset 12. Retenons-le bien. Car il n'y a sous le ciel, peut-être que vous l'avez retenu dans cette version-là, la version seconde. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Eh bien, dans la version du semeur, c'est en lui seul que se trouve le salut. C'est en lui seul. Je suis chrétien parce que c'est seulement en Jésus-Christ que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre nom, d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme. Il y a des hommes qui se prétendent envoyés de Dieu, mais ce sont de faux prophètes, ce sont des charlatans. Il n'y a qu'un seul qui a été choisi par Dieu, c'est Jésus le Messie. Le Messie veut dire celui que Dieu a choisi. Il est loin de Dieu ou l'homme choisi par Dieu pour venir au secours des hommes. Il n'est pas venu pour nous apprendre à nous sauver nous-mêmes. Parce que c'est ça, les faux prophètes. Qu'est-ce qu'ils viennent apprendre aux humains? Voilà comment tu dois procéder pour te sauver toi-même. Jésus n'est pas venu pour nous apprendre un rite, un chemin, un moyen, des techniques, des pratiques de sagesse, ouvrir son chakra et je ne sais pas quoi d'autre. Jésus est venu pour être lui-même notre sauveur. Et si je suis chrétien, c'est parce que Jésus est l'unique sauveur véritable. Jésus est unique par sa naissance, par sa vie, par les miracles qu'il a accomplis, par la fin de sa vie, par sa résurrection, par son retour à la fin des temps. Jésus est unique par la manière dont il a parlé. Je suis le bon berger, je suis le pain de vie. Je suis la manne qui vient du ciel. Je suis le Fils de l'homme. Ces manières de parler indiquent l'unicité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est unique en son genre. Aucun homme ne peut parler de cette façon-là. S'il dit « Je suis le bon berger », c'est parce qu'il se situe au même niveau que Dieu, qui est le berger du psaume 23. L'Éternel est mon berger. Soit il blasphémait, soit il était véritablement ce qu'il prétendait être, le bon berger, le berger d'Israël. Le Fils de l'homme, quand Jésus s'appelle ainsi, il nous indique qu'il est un homme qui vient du ciel avec le pouvoir et l'autorité de Dieu. Et vous savez que Jésus a fait des choses qui ont scandalisé les hommes, mais il avait le droit de le dire, il a pardonné le péché aux coupables. Va, tes péchés te sont pardonnés. Et quand il a agi comme ça, on a dit, mais personne ne peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui ait le droit de pardonner. Mais Jésus avait cette prérogative. Oui, il est celui qui nous pardonne nos péchés. Il est notre sauveur. Les apôtres, quand ils parlent du Seigneur Jésus, ils nous disent qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est l'image invisible de Dieu. Il est le créateur de toutes choses. En lui habite pleinement toute la divinité. Colossiens 2, verset 9, nous dit ceci, car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. En Jésus-Christ habitait et habite encore toute la plénitude de la divinité. Et en cela, il est vraiment unique. Je passe à la deuxième raison pour laquelle je suis chrétien. Et c'est une raison que tu peux faire tienne aussi. La deuxième raison, c'est que le visage de Dieu, tel que nous le révèle Jésus, est absolument attirant. Quand j'ai lu les évangiles pour la toute première fois, c'était vraiment une révélation incroyable. Vous savez qu'au Moyen Âge, on a représenté Dieu avec des traits extrêmement durs, avec un regard sévère. Ça n'a aucun rapport avec le Dieu de Jésus-Christ. Le Dieu de Jésus-Christ est le Dieu plein de compassion, plein de miséricorde, avec un regard doux. Jésus a dit « Je suis doux et humble de cœur ». Et Jésus était l'incarnation du caractère de Dieu. Et il peut donc nous faire comprendre que Dieu est humble et doux. La douceur de Dieu est la révélation de Jésus-Christ. Dieu est compatissant, plein de miséricorde. Il est attirant. Il est véritablement charmant au sens vrai du terme. C'est-à-dire quelqu'un qui nous captive, qui nous donne envie de le connaître. C'est pour ça que lorsque Jésus parlait de Dieu, la foule s'agglomérait autour de lui. Voilà quelqu'un qui, pour une fois, leur parlait de Dieu différemment des pharisiens. Pour les pharisiens, Dieu était un Dieu dur, un Dieu qui fait la différence entre les gens et qui n'accepte que ceux qui étaient tout près de lui, engagés totalement à son service. Et les autres étaient rejetés. Jésus est venu pour renverser la barque en disant « Dieu est tout près de ceux qui sont abandonnés à leur sort. Dieu est tout près de ceux qui ne veulent pas, est tout près de ceux dont on ne veut pas. » Et ces gens qui étaient laissés pour compte se sont sentis attirés par Jésus-Christ et par le Dieu qui leur révélait. Le Dieu de Jésus-Christ est peint dans les paraboles notamment de Jésus, comme celui qui est en quête, à la recherche. Bien souvent, nous croyons que c'est nous qui sommes à la recherche de Dieu. En réalité, la Bible nous présente Dieu qui est à la recherche des humains perdus. Rappelez-vous cette parabole célèbre de la brebis perdue. Elle est vraiment la représentation du caractère de Dieu pour nous. Le psaume 27 nous dit « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face ». Je cherche ta face, ô Dieu vivant. C'est parce que Dieu met dans notre cœur le désir de nous tourner vers lui, de le chercher, que nous nous tournons vers lui et que nous nous mettons à sa recherche. Mais nous nous mettons à sa recherche parce qu'il est venu, lui, le premier, nous chercher. Et en cela, il est absolument distinct de tous les autres dieux que présente n'importe quelle religion. Notre Dieu est vraiment attirant. Les paraboles, vous les connaissez, nous présentent Jésus de cette manière-là. La troisième réponse à la question « Pourquoi je suis chrétien ?» c'est parce que Jésus m'a sauvé et m'a donné un sens à ma vie. Il m'a sauvé et il a donné un sens à ma vie. Je dis bien « Il m'a sauvé » et non pas « Il me sauvera ». Parce qu'il n'y a aucune religion qui vous dit « Vous êtes déjà sauvé par la puissance de Dieu ». Toutes les religions vous diront, fais beaucoup de choses et peut-être que tu seras sauvé. À la fin des temps, on verra bien si tu seras sauvé ou non. Jésus est venu pour me sauver et il l'a fait véritablement et avec puissance. J'étais totalement perdu, prisonnier de mes convoitises, esclave de mes pulsions. Et je donnais une direction à ma vie qui aboutissait forcément à la ruine. Et alors, Jésus est venu pour me détourner de moi-même, pour m'orienter vers Dieu, qui donne un sens tout nouveau à ma vie. Je parle de nous tous. À un moment donné ou à un autre, nous avons fait demi-tour pour ne plus marcher sur le chemin qui menait à la catastrophe, mais pour marcher dorénavant vers Dieu, parce que Jésus-Christ est venu pour nous sauver et nous conduire à Dieu. Il n'est pas venu juste pour nous sauver, il est venu pour donner un nouveau sens à notre vie. Le sens, la direction et la raison de vivre. Regardez le passage dans 1 Pierre 3, verset 18. Je vous lis ce verset. Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés. Une fois pour toutes, lui l'innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Notez bien, le projet de Dieu, l'intention de Jésus-Christ à travers sa mort, ce n'est pas simplement pour que nous obtenions le pardon de nos péchés, c'est pour que nous soyons conduits à Dieu, non plus comme coupables, même si nous l'étions, mais comme une offrande nouvelle à Dieu. Et Dieu constitue aujourd'hui pour moi le mouvement de ma vie. Je sais vers qui j'avance. Je sais quelle est la fin de ma vie, le but de ma vie. C'est Dieu et Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et cela est possible par Jésus-Christ. Parce que non seulement il me sauve, mais il me conduit par la main jusqu'à me présenter à Dieu et me faire tenir devant lui. Et aujourd'hui, je peux dire que je vis dans un nouveau mode d'existence. C'est ce que Galates dit, par exemple, le verset 2. Voilà, je vous conseille vraiment d'apprendre ce verset par cœur. J'ai été crucifié avec Jésus-Christ. On va lire. J'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant, je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. C'est l'un des passages les plus touchants. Vous savez que l'apôtre Paul emploie très rarement « je » quand il parle de l'amour de Dieu. Il n'y a que deux ou trois fois où il l'emploie, dans Philippiens et dans Galates. Vous voyez, à un moment donné, on a l'impression que Paul est en train de sentir la puissance de l'amour de Jésus pour lui, et il personnalise cette relation. Jésus qui m'a aimé. Paul a l'habitude de dire qui nous a aimés, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi, ou s'est livré à la mort à ma place. Je suis chrétien parce que par le Christ, je meurs à moi-même pour naître à une nouvelle vie, avec de nouvelles potentialités, avec de nouvelles possibilités. Je suis chrétien parce que par sa mort, Jésus m'unit à lui et avec lui, je deviens un et sa vie vient remplir la mienne, la posséder, la fructifier, la féconder et faire en sorte que cette vie nouvelle explose comme étant la vie de Jésus. Je sais que même si je suis un mauvais chrétien, en tout cas, la vie de Christ me remplit de plus en plus, travaille en moi et me transforme comme la levure finit par transformer toute la pâte. Un jour, je deviendrai semblable à Jésus-Christ. Mais dès aujourd'hui, Jésus habite ma vie. Dès aujourd'hui, Jésus me remplit de sa présence. Et sa vie, c'est-à-dire cette paix ineffable, cette communion avec Dieu, cette tendresse pour les perdus, ce caractère unique qui est le caractère de Jésus. Eh bien, tout cela est en train de germer en moi, de vivre en moi pour me remplir totalement et parfaitement un jour ou l'autre. Si je suis chrétien, c'est parce que Jésus, non seulement il me dit « Vas-y mon gars, tu peux le faire », mais il est en moi pour me transformer et réaliser en moi son désir. Quelqu'un a dit, ce n'est pas tant le chrétien qui vit que Jésus qui vit dans le chrétien. C'est ce que Paul dit. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu. Oui, je suis chrétien parce que j'ai une nouvelle destinée. J'ai un nouveau mode d'existence et un sens nouveau à ma vie grâce à Jésus-Christ. Je suis chrétien parce que le Christ ne m'invite pas à pratiquer une religion, mais à vivre une relation. C'est ce que nous disons souvent, mais c'est tellement vrai. à quoi Jésus m'invite ? À être tout simplement le Fils de Dieu. Fils de Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez, je suis sûr que nous n'en avons aucune idée. Vous savez, parfois, on s'extasie tellement et pendant des heures et des jours lorsqu'une femme entre dans la famille royale. Je crois que c'était l'année dernière, non ? Comment elle s'appelle déjà ? C'est Meghan, non ? Meghan. Pour certains, c'était la plouque, c'est ça ? Qui allait avoir la chance, l'incroyable honneur de faire partie de la famille royale d'Angleterre. Mais vous vous rendez compte ? C'était inespéré, c'est incroyable. Et combien étaient dans la jalousie ? Ah, c'est seulement je pouvais être à sa place. Surtout les femmes, hein. C'est seulement je pouvais être la femme de cet homme, le prince. Mais est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes infiniment plus privilégiés que cette femme, que je ne sais plus comment elle s'appelle, Meghan, infiniment plus privilégiés parce que Dieu nous invite à faire partie de sa famille royale et nous sommes frères et sœurs de Jésus-Christ. Nous sommes unis à lui et nous sommes dans un lien indéfectible. Jamais nous ne serons séparés de Dieu ni de son amour. C'est un immense privilège, un immense honneur, et ça ne peut être donné que par Jésus. Si je suis chrétien, c'est parce que Christ a ouvert le palais royal, le royaume de Dieu à ma vie, et il m'a invité en faisant de moi son propre frère. Le frère de Jésus-Christ. Et un jour, je serai avec lui dans la gloire éternelle. Voilà une raison pour laquelle je suis chrétien. Je fais partie de la famille de Dieu. La relation que j'ai avec Dieu est une relation qui est fondée sur l'amour. Là encore, c'est une nouveauté totale que le Christ nous a apportée. Essayez de résumer la Bible. La Bible, c'est l'histoire de l'amour de Dieu. Un amour incommensurable, un amour infatigable, un amour qui travaille en faveur de ceux qui le détestent, pour les sauver et leur donner une nouvelle espérance. On peut résumer la Bible de cette façon-là. C'est l'intervention de Dieu poussée par son amour pour chercher et sauver tous ceux qui viennent à lui, tous ceux qu'il aime, parce que Dieu aime sans condition. Quand j'étais musulman, il fallait que je fasse beaucoup de choses pour me sentir aimé de Dieu. Et je n'étais jamais sûr que Dieu m'aime, parce que je ne savais pas si j'avais assez fait, si Dieu était satisfait de moi, si Dieu était content. Et si nous sommes dans la religion, nous ne pourrons jamais être satisfaits de Dieu, nous ne pourrons jamais savoir que Dieu est content de nous ou non. Rien ne nous le dit. C'est plutôt le contraire, parce qu'on sait qu'on n'a jamais fait assez. Mais avec Jésus-Christ, je n'ai pas à gagner l'amour de Dieu. L'amour de Dieu m'est accordé comme je suis, pécheur que je suis. Et c'est un amour que Dieu ne dit pas simplement en parole, mais il en donne la preuve. Je crois qu'en France, on dit « il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour ». Alors Dieu nous donne les preuves de son amour par la croix de Golgotha. Il a donné son Fils unique. Un verset dans la Bible, Romains 5, 8. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. L'amour de Dieu nous précède totalement. Il vient avant quoi que ce soit que je puisse faire. Je ne le gagne pas, je ne le mérite pas. Et comme je ne peux le mériter, Dieu me l'offre gratuitement. Je ne peux le mériter parce qu'il faudrait que je sois moi-même Dieu au niveau total de Dieu. Je suis chrétien pour une autre raison encore, c'est que la Bible, le christianisme, fait un diagnostic pertinent sur la condition humaine. C'est très important de voir ça. Si nous regardons l'humanité, la Bible est lucide sur l'expérience humaine et la valeur des humains. La Bible nous dit que l'homme a une valeur incroyable aux yeux de Dieu, parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Et le chrétien est un humaniste véritable, parce qu'il sait que l'homme est digne, non pas en lui-même, mais parce qu'il est créé à l'image de son Créateur. Mais la Bible nous dit que cet homme créé à l'image de Dieu, c'est un homme capable du pire, du pire. Et vous savez qu'au 18e, 19e siècle, les Occidentaux en Europe ont rêvé de l'avènement d'un monde de paix totale. Il y a eu deux guerres et ça a calmé tout le monde. On s'est rendu compte que l'homme n'est pas bon de nature, mais que l'homme est capable du pire. Mais vraiment, on a cru au progrès. On a pensé que le progrès allait faire advenir des hommes et des femmes incapables du mal. On s'est rendu compte que non, le mal est intégré, attaché au cœur de l'homme. La psychanalyse aujourd'hui est capable de dire que l'homme est capable du pire, comme du meilleur, hein, mais du pire. Il y a des pulsions de mort en nous. Il y a des forces intérieures qui nous poussent à la catastrophe. Vous savez, hein, je crois que nous avons tous fait cette expérience. Vous savez que vous allez à la catastrophe. Et qu'est-ce que vous faites? Pardon? Bah oui, on continue. C'est pas grave, je sais que je vais me casser la figure. J'y vais quand même. Nous prenons des décisions qui vont à l'encontre de nos propres valeurs. Je sais en quoi je crois et je fais quand même le contraire de ce que je crois. Comment expliquer cette chose-là? Alors la Bible nous dit que ces forces intérieures, c'est un mal dont on ne peut pas débarrasser. Il fait partie de nous. Et aujourd'hui, tout le monde en vient à cette chose-là. Oui, la Bible vraiment est claire sur l'expérience des hommes. Elle jette un regard totalement lucide et elle nous montre que des forces ravageuses qu'on appelle le péché travaillent en nous pour nous mener à la ruine. Mais la Bible est formidable, non pas dans le sens où elle fait un diagnostic pertinent, mais aussi elle parle d'un remède juste. Parce que la question est là aussi. Comment est-ce que l'homme peut triompher de ces forces qui sont en lui? Alors, on peut écouter les religions. Parce que les religions cherchent à apporter des réponses à ce problème. Qu'est-ce que l'hindouisme dit, par exemple? Tu ne pourras pas t'en sortir, c'est ton karma. Ah oui. Le karma, ça veut dire ce que tu as semé dans les vies passées, tu le récoltes et tu le moissonnes dans la vie présente. Et tout le malheur que tu moissonnes, tous les problèmes que tu moissonnes, sont dus à ce que tu as semé. Et il faut des millions de réincarnations pour espérer te débarrasser de ces choses-là. Donc autant dire, c'est un peu loin. Hein. Donc si vous attendez de vous réincarner 1 million de fois, bah, bon courage. Qu'est-ce que l'islam dit? L'islam dit, il n'y a pas de problème en fait. L'homme est capable de devenir bon par lui-même. On n'a encore jamais vu ça. Les stoïciens, c'est une philosophie qui a existé au 1er siècle et qui a encore des adeptes aujourd'hui, des philosophes français, comme Frédéric Lenoir. Je crois que vous connaissez peut-être cet homme-là. Il écrit souvent dans les journaux sur la religion. Ou alors le philosophe Comte Sponville, il parle souvent de stoïcisme. Qu'est-ce que le stoïcisme dit? Mais en fait, tout est déterminé. Tu dois t'inscrire dans la réalité du monde et tu ne peux rien faire de ce qui t'arrive. Le seul moyen, c'est d'accepter. Il n'y a que la Bible qui soit à la hauteur de ce problème en disant que les forces qui sont en toi sont impossibles à vaincre. Il te faut un secours de l'extérieur. C'est très important de comprendre ça. Les humains se débattent avec leurs problèmes et avec leurs forces destructrices parce qu'ils pensent qu'ils sont capables de lutter contre ces forces et d'en triompher. C'est impossible. La Bible nous dit « Il n'y a que Dieu qui soit capable de venir habiter votre vie et, par son habitation en vous, vous rendre plus fort que ses forces destructrices. Et celui qui vient habiter en nous, c'est l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu, nous sommes capables de faire mourir les actions mauvaises qui sont en nous et qui nous détruisent. Et Dieu est venu pour nous accorder son esprit. Jésus est monté au ciel pour nous envoyer son esprit afin que nous soyons capables de dire non au pouvoir du péché. Jésus-Christ a accompli tellement, et c'est pour ça que je suis chrétien. C'est parce que Jésus n'a pas seulement enlevé le châtiment de mon péché ou la peine de mon péché, mais il a triomphé de la puissance du péché en attendant de supprimer totalement le péché du monde. Autrement dit, Jésus-Christ nous a délivrés de la peine du péché, de la puissance du péché, en attendant de nous délivrer de la présence du péché. Voilà trois mots qui commencent par P. La peine du péché, c'est ce que je méritais en tant que coupable devant Dieu. La puissance du péché, c'est cette force inhérente qui me détruit. Et puis la présence du péché, parce que notre aspiration, c'est qu'un jour nous vivions dans la perfection totale. Et Jésus rendra cela possible véritablement. Une autre raison, c'est que Jésus nous a donné une réponse très importante à la question de la mort. Vous savez que toutes les philosophies du monde affrontent cette question-là, la mort. Comment affronter la mort? Je crois que Luc Ferry, qui est un philosophe français, qui était ministre de l'Éducation nationale, c'est un philosophe qui a dit que toutes les philosophies cherchent à développer trois choses. La connaissance du monde, l'éthique, c'est-à-dire comment vivre dans le monde, et puis le but de cette vie sur Terre ou dans le monde. Et lui, il emploie un terme même chrétien en parlant de sotériologie. C'est-à-dire que les philosophies cherchent à répondre à cette question-là. Comment l'homme peut être sauvé de la mort? Alors vous savez quelles sont les réponses qui sont données? Tu peux être sauvé de la mort en te réincarnant dans ta progéniture. Ça, c'est une possibilité. Voilà, quand tu meurs, tes enfants te survivent et tu vis en eux. Ou alors, tu peux aussi devenir un héros et survivre dans la mémoire des gens. On parlera de toi, comme on parle d'Ulysse ou de Charles Martel. Mais comme dirait quelqu'un, ça lui fait une belle jambe à Charles Martel, hein, de savoir qu'on parle de lui aujourd'hui. Ça ne le fait pas triompher de la mort. Ah, il y a aussi un autre moyen, c'est de savoir que lorsque vous serez enterré, peut-être que vous allez nourrir des vers de terre. Non, mais pour de vrai. Vous allez être transformé et vous allez faire partie du cosmos. Le cosmos, c'est une continuelle transformation des choses. Comme quelqu'un qui disait, la figue fraîche devient une figue sèche, elle se transforme en autre chose. Elle va mourir, elle va nourrir les oiseaux, et ainsi de suite. Mais ce sont des consolations futiles qu'on donne aux gens. Bien souvent, quand quelqu'un décède, qu'est-ce qu'on lui dit? Ou à sa famille? Il est quelque part là-haut, au milieu des étoiles. C'est une fausse consolation. Les gens ne sont pas capables de dire, quelqu'un qui est vraiment athée, il devrait dire, ma femme que j'aime, qui est décédée, c'est fini, quoi. Elle n'est pas parmi les étoiles. Non, c'est terminé. Non, non, on se console en racontant des histoires. Elle est là-haut, au milieu des étoiles. Elle veille sur nous. Rien du tout. C'est un mensonge. Par contre, la Bible nous apporte la solution. Et je cite à nouveau Luc Ferry. Il a dit que la réponse chrétienne est la seule réponse à la hauteur de la question de la mort. Même s'il n'est pas croyant lui-même. Et vous savez quelle est la réponse chrétienne? C'est qu'il y aura la mort de la mort. La mort de la mort. C'est ce que dit l'Apocalypse. Un jour, la mort elle-même sera jetée dans l'étang de feu. Il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus que la vie. Et c'est ce que Jésus nous promet. Si nous sommes croyants, nous savons que la mort n'aura pas le dernier mot. C'est la vie de Jésus qui aura le dernier mot. Et cette vie remplira l'univers tout entier parce que la mort cessera d'exister. C'est une magnifique espérance que nous avons. Il y aurait tellement d'autres raisons que nous pourrions évoquer. La crédibilité de la croix, la personne de Jésus-Christ lui-même, la quête de transcendance que nous avons dans notre cœur, la quête de la communauté, et ainsi de suite. Mais que le Seigneur nous aide à savoir que nous sommes chrétiens pour de vraies raisons, pour des raisons valables qui vraiment nous rendent fiers. Oui, je suis fier d'être chrétien, je sais pourquoi je le suis, parce que pour toutes ces choses qu'on vient de voir ensemble. Que le Seigneur nous bénisse et continue de travailler en nous. Oui, notre Père, nous voulons te rendre gloire et célébrer ton nom pour tout ce que tu fais pour nous. Tu es notre Dieu, tu es notre Sauveur, tu nous aimes d'un amour véritable. Nous ne voulons jamais oublier ce à quoi tu nous as appelés. Nous sommes chrétiens et nous voulons vraiment être conscients de ce que cela signifie et vivre en conséquence de ce sens du mot chrétien. Glorifie-toi dans la vie de chacun de nous. Amen.